J'ai fait quelque chose que, une semaine, en fin de semaine dernière, ouais, dimanche soir dernier, c'est ça. J'ai fait quelque chose que je fais comme jamais. Je suis allé tout seul au cinéma. Honnêtement, je fais à peu près jamais ça. Mais Esther était super occupée, il fallait qu'elle prépare des trucs pour les classes. J'avais une grosse fin de semaine, j'ai dit « ça te dérange-tu? » Dernière représentation, je m'en vais au cinéma, puis j'étais curieux de voir, il va-t-il y avoir du monde? Il n'y avait personne, littéralement personne. J'ai vu aucun autre client pour toutes les salles de cinéma. Là. J'étais tout seul en ligne au popcorn, je suis arrivé dans ma salle, je me suis installé, ils ont installé des nouveaux bancs, tout est neuf, je me suis assis là, puis là on m'a dit « pouvez-vous sortir, on doit désinfecter la salle ». OK. Fait que là, je suis sorti avec mon popcorn, je mangeais mon popcorn tranquillement. Ils ont tous fait leur travail. Je suis rentré, je me suis installé au beau milieu de la salle, puis j'ai apprécié mon film. Seul dans la salle. Écoutez, ce matin, c'est un petit peu ça que je vous propose, d'accord? Lorsqu'on prépare un exposé biblique, quand on prépare une prédication, comme prédicateur, on veut toujours regarder concrètement, là, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens? Qu'est-ce que Dieu les appelle à faire? Puis il y a des gens dans l'Église qui sont un peu plus contemplatifs, il y en a qui sont plus dans l'action. Ils ont besoin en anglais, on va dire un call to action. Ça prend quelque chose à faire. C'est quoi la réponse? Ce matin, il y a zéro call to action. Vous n'allez pas partir d'ici en disant « OK, là, il faut que je fasse ça ». Non, tout ce que vous avez à faire ce matin, c'est apprécier la grâce de Dieu. C'est bon? C'est juste ça que vous avez à faire. Sit back, enjoy. La grâce de Dieu. C'est tout ce que vous avez à faire ce matin. Vous allez voir dans le passage, on va le voir ensemble. C'est un passage qui nous parle de la grâce de Dieu, du fait qu'il nous a appelés, du fait qu'il nous a choisis, du fait qu'on doit apprendre à vivre dans cette sécurité-là, de savoir que Dieu nous a choisis, qu'il nous aime, qu'on est à lui. C'est vraiment un très, très beau passage. La semaine dernière, j'expliquais un petit peu que dans le livre d'Ésaïe, c'est un livre prophétique, dans le livre d'Ésaïe, il y a deux images de serviteurs. Il y a le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, puis il est présenté comme le mauvais serviteur. Le serviteur qui est rebelle, qui est infidèle, qui est décevant, Dieu l'a béni, il a tout donné, puis il est ingrat. Puis il y a un autre serviteur qui est là, c'est le bon serviteur, puis c'est complètement énigmatique dans Ésaïe parce que c'est un livre prophétique, c'est quelque chose qui va venir plus tard. Nous, on sait, parce qu'on vit 2700 ans après Ésaïe, ben que ce serviteur-là, c'était Jésus-Christ. Mais eux, à l'époque, ils ne pouvaient pas le savoir. Ils savaient qu'il y avait un sauveur, un Messie qui viendrait un jour. Ils l'attendaient, mais ils ne savaient pas c'était qui. Ce bon serviteur-là, c'est Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il venait faire? Essentiellement, il venait donner sa vie sur la croix pour des pécheurs, afin qu'on puisse être gracié. Et donc, dans le livre d'Ésaïe, Dieu est très dur avec Israël. Vraiment, Dieu communique combien Israël est décevant, combien même il est châti, il les corrige. Il leur avait dit, vous allez être infidèles, je vais vous corriger. Puis il est vraiment dur. Puis là, lorsqu'on arrive à Ésaïe 44, ce matin, on est dans Ésaïe 44, on sent que Dieu veut rassurer son peuple. On sent que Dieu veut leur faire du bien, puis il veut leur dire, écoutez, oui, vous êtes décevants, mais moi, je suis fidèle, puis je vous ai choisi, et je ne vous abandonne pas. Et ça, c'est la grâce. La grâce, c'est lorsque Dieu nous aime malgré plein de choses. Ce matin, c'est ça qu'on voit dans le passage. Alors, le passage commence, je vais juste vous aider à le voir, puis ensuite, on va l'écouter, on va le lire ensemble. Le passage commence avec des paroles extrêmement affectueuses de la part de Dieu envers son peuple d'Israël. Il leur parle avec affection, avec tendresse, il veut les rassurer. Puis ensuite de ça, il va se mettre à parler du futur, de ce qui s'en vient, des promesses qu'il réserve pour leur descendance spirituelle. Puis il dit, oui, vous avez le cœur dur, vous êtes comme une terre aride qui ne porte pas de fruits. Mais un jour va venir où comme une terre aride peut être arrosée, puis on peut voir des semences jaillir, un jour va venir où je vais envoyer mon Esprit Saint. Puis mon Esprit Saint va venir arroser ces terres-là, et de cette terre aride-là vont sortir des rejetons qui vont porter des fruits en abondance, qui vont être remplis de joie, qui vont vraiment vivre une affection pour moi. Et ça, c'est la promesse qui s'accomplit en Jésus-Christ après sa mort, sa résurrection, son ascension. Il va auprès du Père, il envoie son Esprit Saint. Et puis, on assiste dans le livre des Actes à des gens qui n'avaient pas cette vie-là, cette passion-là pour Dieu, qui reçoivent l'Esprit Saint et qui vraiment vivent cette joie-là qu'on trouve à la fin du passage. C'est bon? On va aller dans la prière. Soyez bien attentifs lorsqu'Esther va le lire, puis on va plonger ensuite dans le texte. Seigneur Jésus, je veux te demander de venir faire une œuvre puissante par ton Esprit Saint au milieu de nous ce matin. Seigneur, nous croyons que tu es présent, que tu es avec nous, que les louanges qu'on vient juste de te chanter, Seigneur, ce n'est pas pour du vent qu'on les chante. C'est pour l'auditoire d'une seule personne, toi, pour tes oreilles à toi, Seigneur, pour ton cœur à toi, pour célébrer ta grâce, Jésus, ton amour. Et Seigneur, on est conscient, je pense, je suis très conscient pour moi-même, que trop souvent, je ne vis pas ma vie chrétienne vraiment abandonnée dans ta grâce, Seigneur. Abandonnée à ta grâce. Te dis pourtant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug, car il est doux et léger. Et Seigneur, pourtant, Seigneur, je te confesse que souvent ma perspective de ma marche avec toi me semble culpabilisante, me semble lourde, me semble fatigante, me semble remplie de devoirs, remplie de déceptions envers moi-même, Seigneur. Parce que je perds de vue le fait que tu m'as aimé. Tu m'as aimé par pure grâce, Seigneur. Tu m'as sauvé par pure grâce. Et je te prie ce matin de venir faire une œuvre puissante en nous par ton Esprit Saint, afin qu'on puisse s'abandonner à ta grâce, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu.
Bonjour. Alors, comme mentionné, on tourne ce matin dans le 44, les versets 1 à 6, dans la nouvelle édition de Genève. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël, que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel, qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël, que j'ai choisi. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Celui-ci dira « Je suis à l'Éternel ». Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main « À l'Éternel » et prononcera avec amour le nom d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors de moi, il n'y a point de Dieu.
Merci. Quel beau passage. Quel beau passage. Verset 1. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Si vous n'êtes pas familier, Jacob, Israël. Israël, c'est le nom qui a été donné à Jacob après qu'il ait lutter avec Dieu, puis donc on parle de la même personne, et en fait ce nom-là, c'est celui qui symbolise tout le peuple de Dieu. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Maintenant, remontez un peu, restez dans vos Bibles, puis allez au chapitre 43, verset 28. Vous allez voir que ça détonne solide, donc un verset avant, d'accord? C'est pourquoi j'ai traité en profane les chefs du sanctuaire. J'ai livré Jacob à la destruction et Israël aux outrages. Qu'est-ce qui suit? Écoute maintenant, ô Jacob. Voyez-vous, Dieu nous voit comme nous sommes. Ça fait 28 ans qu'on est mariés, Esther et moi, puis tu sais, quand tu te prépares au mariage, je ne voudrais pas péter la bulle de nouveau fiancé à l'église. Je pense qu'il y a eu une fiançaille en fin de semaine. Là, vous ferez circuler les rumeurs, vous trouverez c'est qui, c'est pas mal cute. Je ne veux pas péter de bulle ce matin, mais je veux dire, quand tu te prépares à te marier, tu sais, je veux dire, il est tellement beau, il est tellement belle, toutes les qualités du monde, puis tu entrevois des défauts, mais tu te dis, bof, c'est rien, ça va bien se passer. Tu sais, c'est... Honnêtement, tu n'es pas tout à fait lucide. soyons honnêtes. Puis en plus de ça, tu as un agenda. Tu te dis, tu sais, elle ne m'a jamais rencontré, avec moi, elle va pouvoir changer. Non, tu ne dis pas ça, là, mais je veux dire, tu réalises après 20 ans de mariage que ça fait 20 ans que tu essaies de la transformer ou qu'elle essaie de te transformer. Puis là, tu te dis, OK, je pense vraiment que je vais laisser ça au Seigneur. C'est entre meilleures mains comme ça. Donc, quand on entre dans le mariage, il y a un rêve, il y a quelque chose, on est comme, tu as les deux yeux dans la graisse de bine, puis tu sais, c'est comme, pff, tout est beau. Dieu, c'est pas comme ça qu'il rend le mariage avec nous. Dieu nous voit comme nous sommes. Dieu me voit dans ma vie chrétienne, après 30 ans de vie chrétienne, là où je suis rendu. Puis je veux dire, quand il m'a appelé, il voyait déjà quelle sorte de vie chrétienne j'allais vivre. Dieu est 100% lucide. Je veux dire, c'est ça que je viens juste de vous lire au verset 28, chapitre 43. « C'est pourquoi j'ai traité en profane les chefs du sanctuaire, j'ai livré Jacob à la destruction et Israël aux outrages. » Parce qu'ils les châtient, parce qu'ils se sont tournés vers d'autres dieux, parce qu'ils sont allés vers des idoles, parce qu'ils n'ont pas été le peuple qui devait représenter Dieu. Il est conséquent, il est lucide. Mais Dieu ne nous regarde jamais seulement à travers cette lunette-là. Il nous regarde à travers ce verset-là, verset 44, chapitre 44, verset 1. « Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur. Ô Israël, que j'ai choisi. » Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Il nous a choisis. Notre paix et notre joie nous viennent de la grâce de Dieu qui nous a formés, qui nous a choisis, qui nous a donné son esprit. C'est là que se trouve notre paix. Jamais dans nos performances. Et chaque fois que je l'oublie, la vie chrétienne devient lourde. La vie chrétienne devient difficile. Notre paix, notre joie, notre repos se trouve toujours dans la grâce de Dieu. Écoute, je t'ai choisi. Écoute, ô Jacob, mon serviteur. C'est intéressant, dans Jean 10, au verset 27, je vous dis, c'est le bon serviteur dans Ésaïe, celui qui va venir accomplir tout ça, c'est Jésus. Fait que régulièrement, tu entends Jésus parler, puis tu dis, il parle comme le prophète Ésaïe, il parle comme ce qui avait été annoncé. Dans Jean 10, au verset 27, on lit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Voyez-vous, je les connais, je les ai choisis, je les appelle, puis elles répondent à mon appel. Parce que c'est lui qui nous a choisis. Au chapitre 43, dans Ésaïe, au verset 1, encore une fois, cette idée-là d'appel, de choix de la part de Dieu. « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je vais venir à ton secours. » Oui, tu es pathétique, mais je t'aime. Je t'aime, puis je prends soin de toi. Je t'abandonne pas. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Et ce langage-là, « tu es à moi », ce n'est pas le langage d'un propriétaire d'esclave. Là. C'est un langage passionnel. C'est un langage qui fait écho à ce qu'on trouve dans le Cantique des Cantiques. Si vous n'êtes pas familier avec le Cantique des Cantiques, c'est vraiment un livre poétique dans l'Ancien Testament qui nous parle de l'amour entre un homme et une femme. Puis à travers ça, tu ne peux pas faire autrement que de voir qu'il y a aussi cette image de l'amour entre Dieu et son peuple, entre Christ et son Église, parce que les mariages sur terre sont censés être un reflet de cet amour-là que Dieu a pour nous, puis que Dieu déploie envers nous. Maintenant, regardez dans le Cantique des Cantiques, voici ce qu'on lit. « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. » Voyez-vous, c'est le même langage qu'on a dans Ésaïe. Cette espèce de possessivité, mais c'est de l'amour, c'est passionnel. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus passionnel que de donner sa vie pour celle que tu aimes? C'est ce que Christ a fait à la croix. Il n'y a pas de plus grand amour que ça. C'est un amour passionnel. C'est pour ça qu'on l'appelle la passion du Christ. Parce qu'il l'a fait avec toutes ses tripes, avec toute sa vie. Il a donné sa vie pour son épouse, qui est l'Église, son peuple, toi, moi, si tu as cru en Jésus-Christ. C'est vraiment une histoire d'amour. Cette idée-là que Dieu nous choisit est très, très, très importante pour comprendre la grâce. Cette idée que Dieu dépose son regard sur toi même avant ta naissance, puis que c'est lui qui t'appelle, est super importante pour saisir la grâce. Puis je sais, certains d'entre vous, vous connaissez mes convictions théologiques, puis là, vous dites, bon, OK, là, Yannick va nous enseigner sur le calvinisme ce matin, puis tout ça, puis je pourrais aller là, je suis absolument convaincu que c'est biblique. Je pourrais aller là n'importe quand. Ce n'est pas là que je m'en vais ce matin. Je veux juste vous montrer que c'est là dans le passage. Si tu ne vois pas l'idée que Dieu choisit son peuple, tu n'as jamais lu l'Ancien Testament. Je veux dire, l'Ancien Testament, c'est l'histoire de Dieu qui choisit un peuple à travers Abraham et sa descendance. Le peuple d'Israël, c'est Dieu qui choisit. Et c'est important de le comprendre parce que ça m'aide à saisir la grâce. Il m'a choisi avant tout. Il m'a choisi avant toutes mes stupidités, avant toutes mes conneries. Il avait choisi de m'aimer, alors même qu'il allait me présenter la grâce. Il savait très bien quelle sorte de vie chrétienne j'allais mener. Mais c'est lui qui choisit ce thème-là de ce Dieu qui nous choisit, qui nous aime à l'avance, qui nous forme, qui nous connaît dans le sein de notre mère. C'est super important à travers toute la Bible. Parce qu'il y a une sécurité dans ça. Je m'abandonne au fait que le Dieu souverain, qui était lucide, lui, quand il est rentré dans cette noce-là, il n'avait pas les deux yeux dans graisse de bine, il n'était pas là en train de se dire, « Oh, ce beau petit Yannick-là, il va combler mon cœur. » Oui, il faisait des niaiseries, mais quand il va découvrir mon amour, ça va le transformer. Il va toujours faire ma joie. Tu sais, c'est comme Yannick ne va jamais me décevoir, ne va jamais me trahir, ne va jamais regarder ailleurs. Non, Dieu est lucide. Il me choisit. Donc, quels que soient tous les enjeux, les complexités de cette idée-là de l'élection, puis tout ça, ce n'est pas là que je vais ce matin. Si ces difficultés-là à comprendre cette doctrine-là, cette vérité biblique-là qui est complexe, t'empêche d'apprécier le fait que Dieu choisit, appelle, tu passes à côté de la grâce. Tu vas être ce conjoint, cette épouse, qui tous les jours cherche dans le regard de l'autre qu'elle est ou qu'il est satisfait. Tu vas être cette épouse qui tous les jours est insécure puis dit, est-ce qu'elle m'aime encore? Est-ce qu'il m'aime encore? Est-ce que je suis assez bon? Est-ce que j'y arrive? Puis ta vie chrétienne ressemble peut-être à ça. Tu es constamment en train de te dire, sûrement que je l'ai déçu aujourd'hui. Il t'a aimé en connaissant d'avance toutes les déceptions que tu allais y mettre en pleine face. Et il t'a choisi parce qu'il est Dieu. Jésus dit dans Jean 15, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. » Il parle à ses disciples. Il dit, dans votre expérience à vous, tu sais, vous êtes venu m'entendre dans une foule, puis je prêchais, puis là, vous avez dit, hey, « je pense que c'est lui. » Mais Jésus, il dit, ça, c'est ton expérience, mon ami. Mais en définitive, ce n'est pas ça qui s'est passé. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Dans les prochaines semaines, on va parler des choix qu'on a à faire. On commence une nouvelle série dimanche prochain, puis pendant 4 dimanches, on va parler des choix qu'on a à faire. J'ai quand même quelque chose, il y a un moment où je dois dire oui, je le veux. Puis on va parler de ça. Mais je dois me rappeler ces paroles de Christ. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ce matin? C'est parce que tu ne peux pas expérimenter la grâce pleinement si cette vérité biblique-là, qui est évidente, est là dans le texte. Là. On n'est pas dans les débats de doctrine, on n'est pas dans tout ça. Là. Je fais juste vous lire les paroles de Jésus. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Écoute maintenant, ô Jacob. « Ô Israël, mon serviteur que j'ai choisi, parce que je veux vivre la grâce. » Maintenant, certains se posent la question, comment je fais pour savoir qu'il m'a choisi? Qu'est-ce qu'ils vont me dire que je fais partie de ceux qu'il a choisi? On y vient un petit peu plus loin dans quelques minutes. Retenez votre question, elle est importante. Puis la réponse est là et dans le texte. « Celui qui a choisi Dieu, Dieu le garde, le protège, et notre paix vient du fait... » que c'est Dieu qui nous garde. C'est Dieu qui nous protège. Le livre d'Ésaïe est super fort pour te montrer que c'est la grâce. T'sais, Israël est super décevant. C'est comme le pire chrétien que tu vas rencontrer dans ta vie chrétienne, c'est Israël dans le livre d'Ésaïe. Il n'y a pas pire croyant qu'Israël dans le livre d'Ésaïe. Puis pourtant, Dieu n'a pas abandonné Israël. Dieu a encore un message de grâce. Sois en paix. Au verset 2, « Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien ne craint rien. » Quand j'étais en train d'étudier le passage, j'étais là et je disais, « OK, c'est quoi les impératifs dans le texte? » Tantôt, je vous ai dit, je n'ai pas de devoir à vous donner. Ce matin, je vous ai dit, il y a deux impératifs dans le passage. Écoute, puis n'aie pas peur. Sit back, enjoy, relax. Relax. Sois en paix. C'est moi qui te garde. Ce n'est pas toi qui te garde dans la foi. Tu n'es pas assez fort pour ça. Tu n'étais pas assez brillant. Tu n'es pas plus brillant que le reste des hommes, tu sais, puis les autres entendent l'Évangile. Toi, tu es sharp. Tu dis, Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On va parler des choix dans les 4 prochaines semaines, mes choix que j'ai à faire. On va en parler. Mais relax, sois en paix, parce que c'est lui qui te tient. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Si on veut être honnête, je pense, beaucoup d'entre nous, on vit énormément d'anxiété. Puis il y a des choses qui sont légitimes, il y a des craintes, il y a plein de choses, il y a des risques réels. Mais quand tu es convaincu que tu es dans la main de Dieu, du Dieu souverain, du Dieu tout-puissant, le passage se termine avec une déclaration de Dieu. Il dit, « Je suis le seul Dieu. Je suis le premier et le dernier. Hors de moi, il n'y a pas de Dieu. » Si cet être-là te dit, « Tu es à moi, ne crains rien. » Qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais rentrer dans ma salle de cinéma, là, puis regarder le film de ma vie, puis manger mon popcorn. C'est ça que je devrais faire. M'abandonner à la grâce de Dieu. Et je ne sais pas comment c'était ta semaine, je ne sais pas ce que tu vis comme anxiété, je ne sais pas c'est quoi tes défis, je ne sais pas c'est quoi tes déceptions, je ne sais pas comment tu te vois toi-même, comment tu regardes ce qui est devant toi. Mais au-delà de tout ce qu'il peut y avoir de réellement anxiogène, de réellement inquiétant, au-delà de tout ça, si tu appartiens à Christ, il dit, sois en paix, sois en paix. Je suis là, je suis avec toi. Je veille sur toi, je t'aime. Je t'aime. Je prends soin de toi. Sois en paix, sois sans crainte. Je te garde, je te protège. Encore une fois, Jésus, dans Jean 10, écoutez comment ça fait écho au passage. Dans Jean 10, verset 28-29, il dit, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » C'est la même chose que j'entends dans le Nouveau Testament. Christ m'a fait entendre sa voix. J'ai répondu à son appel par un miracle qui me confond encore aujourd'hui. J'ai cette conviction que je suis chrétien, un enfant de Dieu, et ma paix se trouve là. Mon repos se trouve là. Personne ne peut m'arracher à sa main. Ce n'est pas que le diable ne voudrait pas que j'abandonne la foi. Ce n'est pas que le monde ne me dit pas, t'es bien naïf de croire en Dieu, c'est dépassé cette affaire-là, on est à l'époque de la science et de la raison. Tout le monde est rationnel sur la terre, hein? Vous avez remarqué ça? On est très rationnel cette année, tout le monde reste calme, il n'y a pas d'hystérie nulle part. Mais moi j'ai entendu la voix de Christ, puis je sais que je lui appartiens, puis il me dit, sois en paix. Relax. Arrête de faire tes bilans de vie chrétienne. Arrête de faire tes bilans de performance chrétienne. Arrête de dire, oui, mais Seigneur, je devrais tellement t'en donner plus pour ce que tu m'as donné. C'est quoi, tu veux acheter son amour? Tu veux comme mériter son amour? C'est une insulte. C'est une insulte à Christ. après qu'il ait donné sa vie pour toi, toi, tu veux comme quotidiennement dire, « Regarde, t'en as eu pour ton argent, hein, c'est un bon mariage, t'as pris un bon parti. » Pas de même, ça marche. Repose-toi dans sa paix, dans sa grâce. Et je vous avais dit, on va revenir à la question, « Oui, mais comment je fais pour savoir qui m'a choisi? » C'est là, c'est dans le passage. Au verset 3 et 4, il donne une promesse qui va s'accomplir beaucoup plus tard. Hein? Ésaïe, c'est écrit 700 ans avant Jésus-Christ, un prophète, il annonce des choses qui vont venir. Et puis, le cœur du peuple d'Israël est à peu près le même tout le temps à travers son histoire dans l'Ancien Testament. Il y a des hauts, des bas, il y a des réveils, mais disons que c'est assez ordinaire, tu sais, dans le sens québécois du terme, très, très ordinaire comme peuple de Dieu. Puis on arrive au verset 3 et 4, puis il dit, « Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, sur la terre aride, la terre desséchée, et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race. » C'est une image, c'est une figure de style, c'est une image tout simplement qui est en train de donner pour dire, « Vous êtes un sol aride. Il n'y a pas grand-chose à sortir de là. Il n'y a rien qui pousse là-dedans. » Vous êtes sec! Mais moi, je vais venir visiter cette terre-là par mon Esprit Saint. Je vais répandre mon esprit. Et cette prophétie-là, cette promesse-là apparaît progressivement dans l'Ancien Testament où il en vient à dire, un jour, je vais donner mon esprit à ceux que j'appelle et leur cœur va être selon mon cœur. Ils vont m'aimer. Ils vont être reconnaissants. Je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race. Puis là, ici, on peut penser, nous, qu'on est en train de dire que c'est juste le peuple d'Israël. J'ai commencé à aborder la semaine dernière brièvement l'idée que dans Ésaïe, on voit vraiment un appel aux nations. Et ce qu'on découvre lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, c'est que les descendants d'Israël, c'est avant tout les descendants spirituel d'Abraham, d'Israël, des gens de toutes les nations. Et je crois personnellement qu'il y a vraiment un reste d'Israël qui va revenir, je le crois. Mais Paul dans Galates va dire « Nous sommes l'Israël de Dieu ». Et donc, c'est une promesse qui est donnée pour ceux qui viendraient et qui croiraient. Et il dit « Ma bénédiction sur tes rejetons, ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau ». Lorsqu'on arrive dans le livre des Actes, dans le Nouveau Testament, Jésus est mort, ressuscité, monté auprès du Père, l'Esprit est envoyé. On lit dans Actes 2, 17, 18. Alors que les apôtres sont en train d'interpréter qu'est-ce qui se passe, l'Esprit Saint vient sur eux, puis c'est des gens transformés, littéralement transformés, avec une confiance, une assurance dans cette nouvelle identité qui leur est donnée. « Je sais que je suis à Dieu parce que l'Esprit de Dieu fait écho en moi, me fait sentir cette paternité que Dieu a envers moi. » Puis les apôtres veulent interpréter, puis au verset 17-18, on lit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Il est en train de citer un autre prophète, le prophète Joël, dans l'Ancien Testament. « Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je répandrai de mon esprit. » Comment est-ce que tu fais pour savoir que Dieu t'a choisi? C'est ta réponse à l'Évangile qui te le dit. Comment est-ce que tu fais pour savoir que tu peux t'abandonner à la grâce? C'est que ton cœur a accueilli la bonne nouvelle de la grâce en Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que tu es plus sharp que les autres. Moi, je te propose de faire un test. Si tu doutes de ça, sors d'ici tantôt, va au centre d'achat, annonce l'Évangile aux 100 premières personnes que tu vas voir. Bon, c'est peut-être un peu cold call, là, c'est peut-être un peu brutal. Trouve-toi 100 amis, OK, qui sont prêts à t'écouter pour 15 minutes. Ça va? Donne-toi l'année pour faire ça. Fais un petit sondage, tu me reviendras à la fin de l'année. Présente l'Évangile à tout le monde, tu sais, dans un moment calme, tout ça. Moi, je te dis, tu n'en as pas plus que 20 qui vont te dire, « Hey, sais-tu, ça a bien de l'allure, ton affaire. » Je trouve que ça a vraiment beaucoup de bon sens. Maintenant, ces 20-là qui trouvent que c'est très, très raisonnable ne vont pas dire, « J'embarque, où est-ce que je signe? Moi, je veux cette grâce-là. » Non, la majorité vont dire, mais c'est pas pour moi. Je veux dire, quand le vaccin va être prêt, puis que tu vas voir qu'il y a 20 000 personnes qui l'ont pris, personne n'a le coronavirus, il n'y a pas d'effet secondaire, tu vas-tu dire, oh, non, c'est pas pour moi. Non, tu sais, je préfère essayer de l'attraper, je suis peut-être une personne sur 100 qui va mourir. Mais je te dis, si tu annonces l'Évangile, je veux dire, tu n'as pas un meilleur vaccin que ça, là. 20 personnes vont te dire sur 100, vont te dire, ça a bien de l'allure ton affaire. Puis sur ces 20-là, il y en a peut-être un, il y en a peut-être deux, chez qui tu vas voir à un moment donné dans ses yeux-là une étincelle qui va apparaître, une flamme qui va se mettre à jaillir. Puis là, tu vas voir que cette personne-là va commencer à dire, attends un peu là, tu es en train de me dire que ça, c'est disponible pour moi. Tu vas voir une personne, peut-être deux personnes qui va te dire, qui va prendre conscience de son état devant Dieu et qui va dire, « Oui, mais je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas l'amour de Dieu. » Tous les autres sont à peu près convaincus qu'ils méritent tout de la part de Dieu. Ah, Dieu leur en doit pas mal plus que ce qu'il leur a donné sur la terre. On va s'expliquer de l'autre bord parce que je ne l'ai pas eu facile. Mais tu vas rencontrer un ou deux qui vont dire, « Mais je ne mérite pas ça. » Qui vont être confondus. Ils vont se voir comme le mauvais serviteur qui ne mérite pas la grâce. Puis ils vont dire, « Es-tu vraiment en train de me dire que cette grâce-là est disponible pour moi? » C'est une conversion, c'est une nouvelle naissance qui est en train de se produire à ce moment-là. C'est un miracle. C'est une terre sèche, desséchée, aride, qui est visitée par l'Esprit-Saint. Comment tu fais pour savoir que Dieu t'a choisi et que tu devrais apprendre à te reposer dans la grâce? C'est parce que tu es reconnaissant pour la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de quelque chose de plus flyé que ça. C'est juste là dans le passage, c'est présent. Regardez au verset 5. « Celui-ci dira, après que l'Esprit ait visité, après qu'il ait fait jaillir cet amour-là pour Dieu, celui-ci dira, « Je suis à l'Éternel. » Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main, puis bon, je pense qu'il avait peur que ça ait l'air des tatous, écrira sur sa main, c'est plus littéral, « À l'Éternel » et prononcera avec amour le nom d'Israël. Il dit, « Un jour, là, chez tes rejetons, tu vas voir dans ta descendance spirituelle, je vais venir les visiter avec mon esprit. » Ces gens-là vont être tellement heureux d'appartenir à Dieu. Ils vont être fiers de ça. Ils n'en reviendront pas. Ils vont dire, « Pince-moi, il m'a aimé. J'arrive pas à le croire. » Le passage qui me venait à l'esprit, c'est les apôtres qui se font arrêter parce qu'ils annoncent l'Évangile. Puis là, ils sont battus en prison. Puis là, complètement fêlés, ils sortent puis ils sont « Hey, wouh, on s'est fait battre au nom de Jésus, on est digne de ce nom-là! » C'est l'œuvre de l'Esprit qui fait que j'ai de la joie dans l'Évangile. Je crois dans la grâce de Dieu. Et si ça, c'est là dans ton cœur, arrête de chercher c'est quoi qui manque à ta vie chrétienne, c'est quoi que t'as fait qui n'est pas à la hauteur, c'est quoi qui fait que t'es pas sur la coche. Il faut commencer nos journées, finir nos journées en se reposant dans la grâce. Une fois que j'ai fait ça, je peux regarder tout le reste. On va en parler pendant 4 semaines. Je peux dire, oui, Seigneur, je regrette quand même, j'ai péché là, tu sais. Oui, mais c'est parce que je suis en train de le faire à la lumière de l'Évangile. Je suis en train de revisiter ce que j'ai fait, bien fait, ce que j'ai mal fait à la lumière de l'Évangile. Mon cœur est apaisé dans la grâce. Je suis assis dans le cinéma, tout seul, en train de regarder le film de ma vie, puis je vois dans ce film-là la main de Dieu qui m'appelait à lui, qui m'attirait à lui. Puis je vois le jour où j'ai entendu l'Évangile, puis l'Esprit-Saint a fait une œuvre, puis il a déposé cette conviction que j'avais besoin de ce sauveur-là, j'avais besoin de cet époux-là, j'avais besoin de cette amour-là, j'avais besoin de cette grâce-là. Je regarde le film de ma vie pendant que je suis assis dans ma salle de cinéma, en train de manger mon popcorn. Puis je dis, ça, c'est une vie qui a été visitée par la grâce de Dieu. Puis je suis fier de ça. Il y a une fierté dans le passage. Je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre. Il y a une fierté dans le passage qui est remarquable. Puis je veux terminer avec une illustration ce matin. C'est remarquable de voir comme il dit, « Ah, moi j'appartiens à l'Éternel, moi j'appartiens à Dieu, moi je suis un descendant de Jacob. » Il y a une joie dans ça de dire, « Moi je suis chrétien, parce que je suis en train de dire, je suis un gracié. » Pendant que j'étais en train de méditer sur le passage, l'image qui me venait, c'est le fait que je suis Canadien. Moi, je suis Canadien. Puis honnêtement, je suis fier d'être Canadien. Je suis heureux de ça. Je vis dans un bon pays. Ce matin, j'étais en train de réviser mes choses, puis j'ai dit, j'ai visité des pays où quand tu te couches le soir, hein, c'est... Tu fermes les vitres, barricadé, en sécurité. Je disais, moi, je me suis couché hier soir, j'ai pas acheté deux bergers allemands, il n'y a pas un shotgun en dessous de mon oreiller. Je suis dans un bon pays, dans un pays de paix. Je suis Québécois. Je suis fier d'être Québécois. En général, là, quand ils sont de bonne humeur, ils sont sympathiques, les Québécois. Ils sont accueillants. Je suis fier d'être Québécois. Je suis bien dans ça. Puis j'ai une fierté de ça. Mais en même temps, quel mérite j'ai d'être Canadien ou d'être Québécois? Ici, il y a des gens qui sont des immigrants. Vous avez tout quitté, vous avez tout abandonné, vous avez tout sacrifié pour aller vers une terre où vous dites, nous, on va faire tous les sacrifices, puis nos enfants vont en bénéficier. Ça, écoutez, moi, ça me jette sur le dos, c'est admirable, c'est extraordinaire ce courage-là. Moi, je n'ai rien fait. Je suis né ici dans l'abondance, avec un paquet d'opportunités, puis pourtant, je suis fier de ça. Comment je peux être fier de quelque chose que je n'ai pas mérité? Comme on peut être fier de porter le nom de chrétien. Mais je ne le mérite pas, ce nom-là. C'est une œuvre de grâce de Dieu dans ma vie. Il m'a comblé de sa grâce. Cette semaine, sit back, relax, enjoy. Abandonnez-vous à la grâce le matin quand vous vous levez. Abandonnez-vous à la grâce quand vous vous couchez le soir. Quand vous commencez à être anxieux, rappelez-vous qui vous a choisi et qui vous a aimé. Et vous savez qu'il vous a choisi parce que son esprit habite en vous, vous rappelle que vous êtes enfant de Dieu. Et si ce n'est pas ton cas, je t'invite. Tu es peut-être le 1 ou 2 % qui sent qu'il y a quelque chose qui vibre en lui, en elle. Et si c'est le cas, sois à l'écoute. Écoute, parce que bientôt, peut-être, il va te dire, « Écoute mon enfant que j'ai aimé, toi que je veux sauver. » C'est l'esprit qui est en train de t'appeler. On va prier. Seigneur Jésus, je veux apprendre à me reposer en toi, Seigneur. Je veux apprendre à vraiment m'abandonner à ta grâce, à vivre la vie chrétienne comme la conviction que je suis porté par quelqu'un d'autre, que je suis transporté dans des moments de joie, de reconnaissance, de paix, de louange. Je suis transporté dans des moments d'allégresse où je vis cette joie d'être chrétien, de porter le nom de Christ, d'être un héritier spirituel d'Abraham, de Jacob, un fils, une fille de Dieu. Je te prie, Seigneur, de nous remplir de cette joie, que cette joie-là soit contagieuse, Seigneur. Et si quelques-uns parmi nous ce matin ou qui nous écoutent en ligne sentent qu'ils commencent à entendre l'appel de ta voix, Seigneur. Accorde-leur la grâce d'écouter attentivement pour recevoir le message de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est en son précieux nom que nous prions. Amen.